Aimable auditeurs de la radio, nous sommes ensemble. C'est l'heure de notre dévotion. Cette dévotion à laquelle vous et moi ne pouvons manquer. Parce que c'est un programme envoyé par le bon Dieu pour l'instruction et l'édification de nos âmes. D'ailleurs, si cette dévotion ne vient pas, nous nous sentirons vraiment ennuyés parce qu'elle fait déjà partie de notre programme de vie. Nous voulons donc remercier le Très-Haut d'avoir pensé à nous. Vraiment, il est bon. Durant le trimestre, nous sommes en train d'explorer le beau thème religion et relations humaines. Sectionné en plusieurs thèmes, ce grand thème nous a fourni 13 sujets bien déterminés. Nous en avons déjà vu deux. Aujourd'hui, nous allons considérer un troisième, le rôle des parents, joie et responsabilité. Mais juste avant, acceptez que nous vous souhaitions une très cordiale bienvenue à cette étude. Le rôle de parent, joie et responsabilité. Bien chers auditeurs, posons-nous quelques questions avant d'entrer à fond dans notre sujet. Est-il plus difficile d'être parent aujourd'hui qu'il y a quelques décennies? Ou les gens de notre époque sont-ils tout simplement plus conscients que par le passé de ce qu'exige le rôle parental? Est-ce devenu plus difficile de trouver le temps de bien l'exercer? Est-il plus difficile de guider correctement nos enfants à l'époque de la télévision et d'Internet, lorsque nous n'étions pas bombardés par des publicités trépidantes et des séries télévisées? En outre, si idéale que soit la notion biblique de famille, avec un père et une mère, le monde, lui, n'est pas un lieu idéal. Beaucoup d'autres types de familles existent, mais quels que soient ces derniers, la Bible nous offre des conseils inspirés sur la façon d'exercer le métier de parent le mieux possible. Maintenant, nous examinons certains des facteurs clés du rôle de parent responsable et chrétien. Les Écritures nous donnent un message clair. Le voici. Être parent n'est pas seulement une grande joie et un grand honneur, c'est aussi une énorme responsabilité. Je répète, être parent n'est pas seulement une grande joie et un grand honneur, c'est aussi une énorme responsabilité. Notre étude commence avec le beau texte du psaume 127. Écoutons. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Verset 3, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'attitude de la plupart des gens par rapport au fait de fonder famille a changé radicalement. Autrefois, on s'attendait à ce que les enfants naissent peu après le mariage. Dans de nombreuses cultures, avoir un enfant avant 9 mois de vie conjugale faisait froncer les sourcils ou était blâmé. Par ailleurs, ne pas avoir d'enfant pendant les premières années de mariage provoquait l'étonnement ou la pitié. Aujourd'hui, les comportements ont beaucoup changé. La question qui se pose à nous qui cherchons à rester fidèles au Seigneur est la suivante. Quelle devrait être notre attitude concernant les enfants? Quelle devrait être notre attitude concernant les enfants? La Bible nous guide. Des textes très éclairants nous sont réservés dans le Saint-Livre. Nous allons en lire quelques-uns et certainement, après, nous ferons une synthèse et cela nous permettra d'avoir une idée plus ou moins exacte du sujet, rôle des parents et choix et responsabilité. Genèse chapitre 29, verset 31, nous parle de Jacob qui avait deux femmes, dont l'une enfantait et l'autre n'enfantait pas. Genèse 29, verset 31, il est écrit, 29, 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. L'Éternel rendit Léa féconde, tandis que Rachel était stérile. Et nous allons un petit peu plus loin dans Genèse 30, versets 2 et 22. Genèse 30, versets 2 et 22, nous lisons. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Mais à la suite de quoi cette colère fut-elle enflammée? Écoutons, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Ainsi, selon cette déclaration, le non-enfantement de Rachel provenait de Dieu. C'était un empêchement de Dieu. Tandis que la fécondité de Léa était une faveur venue de Dieu. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que l'Éternel s'arrange pour donner des enfants aux uns et ne pas en donner aux autres? Attendez, ne nous empressons pas trop de répondre. Toutefois, nous lisons dans Genèse 30, versets 22 et 23, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Ici, nous constatons trois faits. Une similitude et deux réalités. La similitude, c'est Dieu se souvint de Jacob. Dieu semble avoir oublié Jacob, maintenant il se souvient de lui. L'autre, c'est il l'a rendu féconde. Donc, sans Dieu, Rachel ne serait pas féconde. Et quand celle-ci a enfanté, elle a dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Donc, c'était un opprobre pour ce temps-là que de ne pas enfanter. Toutefois, en ce temps-ci, nous ne pouvons pas le dire réellement. Non, nous ne devons même pas y penser. Dans 1 Samuel chapitre 1er, nous trouvons une situation à peu près pareille. Anne qui ne pouvait pas enfanter, et le texte dit, l'Éternel l'avait rendue stérile. l'Éternel l'avait rendue stérile. En sorte que, et dans le cas de Rachel, et dans le cas de Anne, la responsabilité revenait à l'Éternel. Il rendait stérile. Un peu plus tard, il va permettre que Anne enfanta. Elle sera contente, et c'est normal, qui de nous ne serait pas content. Et nous trouverons aussi un autre personnage dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, cette fois-ci, c'est le verset 7. Luc 1er, verset 7. Il nous a dit que Élisabeth et Zacharie n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Élisabeth était stérile. Bien, cher ami, le mot stérile est tellement répété depuis que nous avons commencé à étudier que nous devons, autant que possible, en chercher la cause. Oui, nous devons en chercher la cause. Premièrement, l'Éternel a rendu stérile. Dans certains cas, c'est l'Éternel qui est responsable. Deuxièmement, il y a aussi la stérilité naturelle causée par la présence du péché en ce bas monde. Ce n'est pas à dire que l'individu lui-même est péché, non. Mais nous savons que le péché sur la terre a apporté beaucoup d'anomalies. Ainsi, une personne peut être en bonne santé et pourtant ne pas pouvoir enfanter. Troisièmement, il y a la stérilité par nos propres fautes, telles que nous allons les lire dans Lévitique 20, verset 20. La stérilité par nos propres fautes. Lévitique 20, verset 20. Nous lisons Lévitique 20 et le verset 20. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Je le répète. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Il portera la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. En sorte que la Bible défend certaines unions et la plupart d'entre elles, quand elles surviennent, entraînent automatiquement la stérilité. Ainsi, l'individu est stérile par sa propre faute. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, Genèse 20, verset 31, Genèse 30, verset 2, verset 22, Esabel 1er 5 et autres. Ces textes montrent que Dieu a fait des miracles pour Rachel, pour Anne, ainsi que pour Élisabeth. Cependant, n'imaginons pas que toute femme stérile l'est par volonté de l'Éternel, je viens de vous le dire. Même s'il est certain, en fin de compte, que Dieu est celui qui donne la vie, ne tirons pas de conclusions trop hâtives au sujet des problèmes de fertilité. Le péché a endommagé physiquement tous les hommes, d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la situation, nous devons faire confiance au Seigneur. Oui, nous devons faire confiance. Par exemple, nous avons lu à propos de Jacob, de Rachel, Dieu se souvint de Rachel. C'est-à-dire que Rachel avait beaucoup prié. Dieu se souvint de Anne. C'est-à-dire que Anne avait prié. Dieu se souvint d'Élisabeth. Et même, lui a dit, ses prières sont exaucées. Bien, cher ami, ceux qui ont des enfants doivent réaliser quelle responsabilité impressionnante est la leur. Et ceux qui n'en ont pas aussi ont également une responsabilité. Que dit le salmiste? Le psalmiste de Psaume 127, verset 3, dit que le fruit des entrailles est une récompense. Une récompense? Pourquoi parler de cela? Ceux-là qui n'auraient pas d'enfants, ne serait-ce pas... Alors, comment pourrait-on le qualifier? Pourquoi dit-on récompense? Eh bien, ça, vous savez-vous, Dieu avait prévu que les choses allassent d'une manière telle que nous, aujourd'hui, ne concevons pas. Dans le plan divin, il est question toujours d'union légitime, de mariage entre un homme et une femme. C'est pourquoi, dans Deutéronome 23, verset 2, Deutéronome 23, verset 2, nous trouvons un cas où l'enfantement n'est pas une récompense. Deutéronome 23, verset 2. Voici ce qui est dit. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. À qui le bon Dieu parlait-il? À Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Israël, c'est l'assemblée de l'Éternel. C'est le peuple de Dieu. Et voici qu'il est écrit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Union illicite, c'est l'union, c'est toute union que le Seigneur, l'Éternel, a défendue, telle que père-fille, mère-fils, sœur-frère, oncle, nièce, tante-neveu, etc. Ce sont des unions illicites. Et ceux-là aussi qui se mettent ensemble sans passer par des sacrificateurs, ils se mettent en union illicite. Alors, même lorsque les enfants sont descendants de Jacob, ils n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire, ils ne pourront point faire partie du peuple de Jacob. Pour ce temps-là, le fruit des entrailles est une récompense parce que on a respecté la parole de l'Éternel. C'est ainsi qu'il faut le considérer pour ce temps-là. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les conceptions aussi. Nous ne pouvons pas penser dans le même cadre. D'ailleurs, remarquez que celui qui est issu d'une union illicite ne pourrait jamais entrer dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire que même descendant de Jacob, il ne ferait point partie du peuple de Jacob. Mesdames, Messieurs, le bon Dieu connaît ce qu'il fait. Il sait pourquoi il fait telle chose. Nous, humains, ne pouvons pas toujours tout expliquer. Toutefois, mettons-nous le plus possible plus près de sa parole. Par ailleurs, qu'est-ce qu'un bon parent? Deutéronome chapitre 4, verset 9, ensuite chapitre 6, verset 6 et 7, nous dit ce que c'est qu'un bon parent. Chapitre 4, verset 9. Que de la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. C'est Moïse qui parle. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Chapitre 6. Verset 6 et 7, nous dit bien, chapitre 6, verset 6 et 7, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les inculqueras à tes enfants. En sorte que le bon parent, c'est celui qui instruit ses enfants dans la crainte de Dieu. Celui qui enseigne la loi de Dieu à ses parents. Et puis, le point clé de toute éducation, l'élément principal de toute éducation, nous est clairement indiqué dans le psaume 78, verset 5 à 8. Dieu a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à l'Éternel. Ainsi, selon ce texte, l'élément clé de toute éducation, c'est l'enseignement de la loi de Dieu, telle qu'elle est consignée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 4, nous lisons que l'enfant doit obéir à ses parents et que les parents aussi ne doivent pas irriter les enfants. Ainsi, ce texte aborde la relation parent-enfant sous deux angles différents, celui des parents et celui des enfants. L'enfant doit obéir à ses parents et les honorer, mais ceux-ci ne doivent pas agir comme bon leur semble. Ils doivent veiller à ne pas décourager leurs enfants en les critiquant et en les réprimandant sans cesse ou en exerçant une discipline inappropriée. L'ordre et la discipline sont essentiels, mais des règles inutiles, des exigences continuelles et sans importance font plus de mal que de bien et risquent de rendre les enfants amers. La relation parent-enfant n'est pas à sens unique. C'est un aspect de la vie domestique tel que Paul la conçoit. Les plus forts sont les obligés des plus faibles. L'Évangile a introduit un élément nouveau dans les responsabilités parentales en insistant sur le fait que les sentiments de l'enfant devaient être pris en considération. Dans une société où l'autorité paternelle était absolue, c'était un concept révolutionnaire. Mais maintenant, nous ne pouvons pas parler ni penser de la même manière. Par ailleurs, un bon parent, disons-nous, c'est celui qui instruit dans la parole de Dieu. Mais qui est père? Qu'est-ce qu'un père? La loi de la République d'Haïti, particulièrement le code civil, prévoit est père celui que le mariage désigne. Est père celui que le mariage désigne. En d'autres termes, si quelqu'un se marie à une femme enceinte, à la naissance de l'enfant, il doit quand même le reconnaître légitimement, même lorsqu'il ne l'aurait pas engendré, pourvu qu'il ait su que la femme était enceinte avant le mariage. Ainsi, je le répète, est père celui que le mariage désigne. Ainsi, un père, c'est quelqu'un qui s'est marié à une femme de laquelle il a des enfants. Par ailleurs, nous savons aussi qu'il y a des pères qui ne sont pas pères. C'est pourquoi le Code civil américain prévoit est père celui qui a nourri, est père celui qui a nourri. En sorte que beaucoup d'hommes ont engendré, mais n'ont jamais nourri. Par conséquent, ils ne sont pas pères. Toutefois, une très grande majorité, sans avoir jamais nourri, quand les enfants sont devenus grands, ils disent « c'est mon fils, c'est ma fille » et ils s'approchent pour jouir du travail d'un autre. Monsieur, écoutez-moi bien dans ce que je vais vous dire. Si vous avez engendré un enfant et que vous ne l'avez pas nourri, pas jamais considérez que vous avez un enfant. D'ailleurs, pourvu que vous ayez eu né, n'approchez jamais votre visage. Et vous aussi, madame, vous avez enfanté un fils ou une fille. Vous l'avez livré à l'hôpital. Quelqu'un de bonne volonté l'a accepté. Vous connaissez la personne. Quand l'enfant est devenu grand, vous essayez de vous approcher pour le reconnaître. Attention, si vous avez du nez, n'approchez jamais votre visage. Ne faites pas ça. Non, vous avez pris une décision en méconnaissant l'enfant, que votre décision demeure. Oui, qu'elle demeure. L'enfant a certainement un père ou bien une mère qui l'a nourri, cela lui suffit. Mais un personnage de nez qui n'aurait pas nourri ne doit pas s'approcher. Venons-en à la question de la discipline. Faut-il discipliner? Vous avez déjà la réponse. Néanmoins, lisons Proverbe, chapitre 19, le verset 18. Proverbe 19, verset 18, précise, « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point de le faire mourir. » Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point de le faire mourir. Ce texte propose un équilibre dans le châtiment. Que de fois nous entendons des parents répéter, pour qui ça va mourir, pour qui ça vient bagaille ça pas ceci, et je vais mourir, je suis content, etc. Madame, attention. Monsieur, attention. C'est vrai, vous êtes père. C'est vrai, vous êtes mère. Mais vous n'êtes pas créateur. Le maître suprême de l'enfant, c'est l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, auteur de toute vie d'homme. D'ailleurs, rappelons-nous le bien. L'homme ne peut pas enfanter. La femme d'elle-même ne peut pas enfanter. C'est Dieu qui donne des enfants. En sorte que, si toutefois nous avons la grâce des enfants, ne désirons pas les faire mourir. N'en tirons pas vanité non plus. Et n'en faisons pas un orgueil. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le véritable auteur des jours de l'enfant. D'ailleurs, si l'homme ou la femme pouvait enfanter, personne ne resterait sans enfant. Non, personne. Et puis, il y a de grands milliardaires qui n'en ont pas. Au moins, ils auraient acheté ou bien ils auraient trouvé un médicament pour pouvoir en avoir. Madame, humiliez-vous devant la bonté de Dieu. Monsieur, faites de même. Comme Dieu vous a confié la gérance de l'enfant, il faut donc châtier, mais sachez comment vous allez exercer ce châtiment. Ainsi, on peut comprendre la discipline de plusieurs façons. Non seulement elle est décrite comme une formation en vue de l'acquisition d'un trait de caractère spécifique ou d'un mode de comportement, notamment dans le but d'un progrès moral ou intellectuel, mais aussi comme une punition destinée à corriger ou à éduquer. L'auteur des Proverbes a beaucoup à dire sur la nécessité d'une discipline à bon escient. Mais dans Proverbes 19, verset 18, il dit en ces termes, dans des termes saisissants, « Discipline ton fils dans sa jeunesse, tant qu'il y a de l'espoir. Si tu ne le fais pas, sa vie sera ruinée. » Et dans Proverbes 13, le verset 24, nous pouvons lire, Proverbes 13, verset 24, « Si je me donne du temps pour répéter deux fois la référence des textes, c'est pour que vous ayez aussi du temps pour les écrire. » Proverbe 13, verset 24. « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Toutefois, même en utilisant la verge, sachons quelle verge nous utilisons. Souvent nous allons à la croix des Boussards. Nous achetons la rigoise qui convient au cheval le plus vigoureux pour pouvoir battre l'enfant. Le Seigneur ne vous autorise pas à battre l'enfant. Non. Si vous le battez, vous la battrez aussi. Non. Nul n'est autorisé à battre son enfant. Non. En le battant, il la battra. Mais, dans Proverbe 23, versets 13 et 14, il est bien précisé. Proverbe 23, versets 13 et 14, il est bien dit, je lis pour vous, n'épargne pas la correction à l'enfant. La correction. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. D'accord? En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Très bien? Donc, il faut le frapper de manière à délivrer son âme du séjour des morts. Maintenant, à l'envoyer au séjour des morts. Il y a des parents qui sont criminels. Des pères malveillants. Ils ne font que filanguer l'enfant. Ah, de tels parents? Non, le bon Dieu ne veut pas prendre plaisir. Vous êtes un criminel. Vous êtes cruel, méchant. Et au jour du jugement, vous le paierez quand même. Il est vrai que de nombreux pays ont introduit une loi qui interdit les châtiments corporels à l'école. Dans certains d'entre eux, la loi interdit également ou émet des réserves strictes sur les punitions physiques infligées aux enfants par les parents. En gardant cela à l'esprit, que dit de la vision chrétienne? Mais juste avant, punition à l'école. Parents, s'il vous plaît, n'autorisez jamais à un professeur ou à une maîtresse de fouetter votre enfant. Jamais. N'autorisez jamais un professeur, une maîtresse de fouetter votre enfant. Si l'enfant mérite quelques disciplines, vous le lui administrerez vous-même. Qu'on vous le fasse savoir, vous irez vous-même faire le nécessaire. Mais jamais le professeur, jamais la maîtresse. Vous me direz pourquoi? Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire du haut de l'antenne. Mais je le répète, aucun professeur, aucune maîtresse n'a le droit de fouetter un enfant. Fouettez-vous vous-même ou bien fouettez vos propres enfants quand vous serez chez vous. Mais jamais un élève, jamais un étudiant. D'ailleurs, il y en a qui sont bandits. Très bien, quand ils arrivent à un certain âge, et ils peuvent vous souffleter avec raison d'ailleurs. Vous n'avez pas le droit de les fouetter, vous n'êtes pas son père ni sa mère. Oh, aujourd'hui, frère, c'est un désagréable. Personne ne peut l'accepter. Personne ne peut être d'accord avec lui. Mais je sais ce que je dis. Oui, je sais ce que je dis. Sans doute, voici Sir White, le fouet est parfois nécessaire, sans tout autre moyen à échouer. Mais les parents ne devraient pas y recourir dans la mesure du possible. Nous découvrirons maintes fois que, si nous raisonnons avec bonté avec nos enfants, nous n'en aurons pas besoin. Et cette manière de faire leur donnera confiance en nous. Par ailleurs, il y a des parents qui, avant de fouetter un enfant, se mettent à genoux avec l'enfant pour prier avec lui. Mais ça, c'est pas si bon de dire fils. Oui. Ensuite, c'est créer de la haine dans le cœur de l'enfant contre le bon Dieu. Vous priez le bon Dieu d'abord, ensuite, vous fouettez l'enfant. Non, ce n'était pas ça. Oui, la prière est nécessaire. Oui, je suis pour la prière. Oui, je recommande la prière. Et pas seulement moi, mais toutes les personnes de bonne volonté et bien éclairées. Priez d'abord avec vous-même et pour vous-même. Pour ne pas vous mettre en colère, pour ne pas vous irriter contre l'enfant, mais pour administrer calmement la discipline et avec la bonté de Dieu, mais non pas pour filanguer l'enfant. Ensuite, vous pouvez prier pour l'enfant pour qu'il devienne meilleur, mais se mettre à genoux avec lui, prier le bon Dieu avec lui et pour lui, ensuite lui administrer des quelques coups de fouet bien durs. C'est le meilleur moyen de créer la haine de Dieu dans le cœur de l'enfant, car moi-même aussi. Le bon Dieu a prié pour moi, et puis après pour moi, écoute, il y a fan pour moi. Ah, non, ça va pas. Bon. Une autre question. Les enfants doivent-ils adopter la religion des parents? Ou bien les parents doivent-ils forcer les enfants à adopter leur religion? Proverbe, chapitre 1er, verset 8 à 15. Proverbe 1er, verset 8 à 15. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butins nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Ainsi, l'enfant peut avoir reçu une éducation religieuse. D'autres peuvent essayer de l'en détourner. Les parents ne sont pas obligés de le lui imposer. C'est à l'enfant de se décider. Évidemment, en tant que parents, nous tous aimerions que nos enfants emboîtent le pas avec nous dans notre religion. Cependant, quand ils sont devenus grands, ils sont libres d'agir dans un sens ou dans un autre. Il revient à chacun, jeune ou vieux, de décider par lui-même s'il veut devenir ou non un fidèle du Seigneur. Aucune pression mal avisée ne doit être faite. Les enfants ne doivent pas s'engager par le baptême pour la seule raison que leurs parents le désirent. Cela ne signifie pas que l'on ne doit pas inciter les enfants avec tact à prendre une décision. Nous, les parents, devons chercher, avec l'aide de Dieu, à préparer de notre mieux ce moment où nos enfants accepteront le Seigneur. Parlons-leur de Jésus. Lisons-leur quotidiennement une bonne Bible pour enfants. Enseignons-leur comment prier. Amenons-les chaque semaine à l'école du sabbat des enfants. Ayons chez nous des vidéos qui valent la peine d'être regardées et aidons nos jeunes lorsqu'ils deviennent adolescents à faire des choix décisifs quant à la musique qu'ils écoutent, aux livres qu'ils lisent et aux films qu'ils regardent. Pourquoi ne pas faire du sacrifice de leur offrir une éducation dans une école que nous supposons chrétienne? Cependant, prions constamment pour nos enfants. C'est notre tâche. C'est notre tâche la plus importante. Il existe des histoires innombrables sur la façon dont Dieu a exaucé les prières des parents qui lui ont confié leurs enfants. Cet aspect-là, du rôle parental, ne prend jamais fin. Le parent doit toujours prier pour son enfant. Bien, chers amis, malgré tout ce que nous avons dit, l'enfant est en grande partie le reflet de ses parents. Un parent menteur ne peut que élever des enfants pour le mensonge. Un parent voleur ne peut qu'élever des enfants pour le banditisme. Sans doute, le parent voleur ne voudrait pas que son enfant devienne voleur. Le parent menteur non plus. Mais écoutons Philippiens 3, Philippiens 4, verset 9, l'apôtre Paul à son fils Timothée. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Oh, je voudrais dire ça moi-même, parent. Et je voudrais que chaque parent soit en mesure de le dire. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Comme conséquence, et le Dieu de paix sera avec vous. Bien, chers parents, c'est à nous d'être des modèles fiables pour les enfants. Ils savent que nous sommes des magouilleurs. Ils savent que nous sommes des gens sincères. Ils savent si nous sommes des gens de bien. Ils savent aussi si nous sommes des voyous, même s'ils ne le disent pas. Et il faut admettre aussi que même quand les parents font tout ce qui est en leur pouvoir pour donner à leurs enfants le maximum d'avantages et d'instructions, de sorte qu'ils donnent leur cœur à Dieu, ceux-ci refusent parfois de marcher dans la vérité. Par leur comportement désastreux, ils font du tort à leurs parents, qui les aiment et dont le cœur aspire à qu'ils soient sauvés. Toutefois, les enfants imitent leurs parents. C'est pourquoi il faut faire très attention à être de bons modèles. Les parents qui, chez eux, font preuve de bonté et de politesse, tout en étant à la fois fermes et déterminés, verront se manifester chez leurs enfants ces mêmes traits de caractère. S'ils sont droits, honnêtes et dignes de respect, leurs enfants ont toutes les chances de leur ressembler. S'ils révèrent Dieu et lui rendent un culte, leurs enfants ainsi éduqués n'oublieront pas de servir également le Seigneur. Tout de même, mon frère, ma soeur, un bon parent, c'est celui qui instruit son enfant dans la crainte de Dieu et qui le discipline, car la Bible préconise la discipline. Cependant, en fin de compte, la décision finale est entre les mains de l'enfant pour le bien ou pour le mal. Nous autres ne pouvons que instruire, enseigner, conseiller. Cependant, Dieu donne toujours une récompense. Oui, oui, il y aura toujours une récompense à nos travaux, à nos œuvres. Nous pouvons tout simplement prier et espérer, espérer et prier. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de nous avoir choisis comme collaborateurs dans l'éducation de l'humanité. Tu pourrais, par une seule parole, remplir d'hommes et de femmes la terre entière. Cependant, tu as préféré créer un homme et une femme et par eux remplir la terre. Ainsi, tu nous accordes la grâce de participer à l'avancement des choses sur la terre. Que ton Seigneur soit béni. Veuille nous donner l'intelligence nécessaire pour pouvoir collaborer avec toi dans l'éducation de nos enfants. Et permet qu'en tout temps et toutes circonstances, nous demeurions de bons modèles pour eux, en sorte que, en nous imitant, ils deviennent des fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Fortifie chaque parent, bénis chaque maison, et donne à chaque enfant d'être pour Dieu des créatures dociles, parce qu'ils auront reçu des enseignements de bonne volonté. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.